Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Messi.
Bonjour et bon réveil à tous sur RMC, les grandes gueules du sport. Comme tous les week-ends jusqu'à midi, on vous accompagne en ce premier week-end d'août. Vous êtes peut-être sur la route des vacances, on vous le souhaite d'ailleurs, sous le soleil. Mais soyez toujours évidemment prudents. Toute l'équipe des GG sur le pont aujourd'hui, avec que de la bonne humeur au programme pendant 3 heures. On a eu Zinedine Zidane officialisé cette semaine à la tête des Bleus. Eh bien nous, on a notre sélectionneur à nous présent dans les GG aujourd'hui, le roi du discours dans le vestiaire. Je veux évidemment parler de Pascal Duprat. Salut Pascal.
Salut Flora, bonjour à toutes et à tous, salut les amis.
À croire que je ne peux pas faire une émission sans lui, ou alors qu'il me suit partout où je vais. Je sais pas, j'hésite encore. Mon plus solide pivot est encore une fois à mes côtés, Fred Weiss. Salut Fred.
Salut Flora.
T'as un choix?
Je te suis partout.
D'accord, j'avais misé là-dessus aussi.
En fait j'ai peur, j'ai besoin de quelqu'un qui me guide en fait.
Aucune ascension ne lui fait peur, il ne recule devant aucune difficulté, pas même celle d'arriver à faire taire Fred Weiss, le tenant numéro 1 des grandes gueules du sport. Jérôme Pinon est avec nous, salut Jérôme.
Salut Flora, salut les copains, surtout pas celle-là, surtout pas peur de faire taire Fred.
Il a pas peur mais il s'est mis très très loin du micro quand même, pour être sûr.
Ouais, il est là.
T'inquiète.
On commence loin du micro.
Il parle beaucoup, ça parle beaucoup,
recule
mais de loin
apparemment.
C'est les mecs qui disent vas-y viens et qui reculent à chaque fois.
Bon, j'espère que vous êtes en forme, les amis, en ce dimanche matin, pour nous accompagner pendant 3 heures jusqu'à midi. On compte sur vous aussi pour nous accompagner au 32-16 et sur WhatsApp au 06 12 424 424. On attend vos petits messages pour participer tout au long de l'émission avec nous. La une des GG en cette pleine période de mercato. Le PSG est relativement calme, mais le renouvellement de l'effectif est-il indispensable pour continuer de gagner à Paris? Le ring des GG, un sport qui brille grâce à une superstar à l'image de la natation avec Léon Marchand, est-ce que c'est forcément bénéfique? La punchline des GG aujourd'hui est signée Bruno Genesio. Patience et sérénité ne signifient pas immobilisme. Marseille doit être européen chaque année. Mais l'OM a-t-il les moyens de ses ambitions? Et puis sur le buzzer, on s'intéressera à la communication des jeunes sportifs ultra maîtrisés à l'image de Victor Wembanyama. Est-ce que ça vous frustre? Et puis tout ce week-end dans les grandes gueules du sport, à l'occasion du Tour de France féminin, Basic Fit, partenaire fitness officiel du Tour de France femme avec Zwift, vous offre un an d'abonnement pour vous entraîner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plus de 300 clubs en France. Pour remporter cet abonnement Basic Fit, vous envoyez sport SPORT au 7 32 16. Il faut croire que la Ligue 1 nous manquait dans les grandes gueules du sport. La reprise, c'est pour le 21 août prochain. Un peu de patience et d'ici là, les clubs français s'activent sur le marché des transferts pour se renforcer. Et c'est le cas évidemment du champion en titre, le PSG, qui mise sur le Made in France.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Il est partout et il fait vendre. C'est le Made in France.
Vous savez que nous sommes ambitieux, c'est normal d'avoir cette mentalité.
Aussi bien un choix de consommation qu'un choix de société.
Barcola dans la surface de réparation, Barcola deuxième poteau, Dembélé, et ça fait 2-0, ça fait 2-0 pour le PSG, le doublé pour Ousmane Dembélé.
75% des Français se disent même prêts à payer plus cher pour acheter des produits hexagonaux.
Un clou arrière pour finir dans le but vide.
Le tricolore n'a jamais eu autant de succès.
Il faut rester ouvert au mercato parce que c'est notre obligation, mais il n'y a pas de problème, on est tranquille, on est calme.
Nous avons également suivi plusieurs entrepreneurs qui ont relevé le défi du Made in France. Certains ont tout misé dans l'aventure.
Exactement la même chose, pour moi, comme j'ai dit, on change rien.
Seulement, des entreprises peu scrupuleuses n'hésitent pas à tromper le consommateur.
7 buts seulement pour
c'est
Dembélé.
Pas exceptionnel.
Il n'a jamais marqué en grande compète. Donc en 58 matchs, c'est sûr que le ratio il n'est pas énorme.
Quels sont russe commercial.
Convention de Lucadine, il aurait un contact. En tout cas, ça a été désigné en ce sens-là. La faute de Lucadine.
Nous allons vous révéler leur méthode.
Ils créent une équipe. Ça veut dire c'est comme un puzzle. Il faut que les pièces y font clic.
J'espère que vous avez tout compris. T'as compris, Fred?
Oui.
Tout va bien. Le Paris Saint-Germain qui va viser cette saison un 15e titre de champion de France et surtout réaliser l'improbable triplé consécutif en Ligue des Champions. Mais pour ça, il va sans doute falloir se renforcer. On va faire le point tout de suite d'ailleurs sur le mercato parisien avec Antoine Sabardin. Salut Antoine.
Salut Flora, salut à tous.
Mais pour le moment, salut Paris Antoine. N'a pas trop bougé.
Non, ça dépend de quel côté on se place, Flora. En ce week-end de chassé-croisé sur la route des vacances, filons la métaphore jusqu'au bout. Il est clair que c'est beaucoup plus chargé sur la route des départs que des arrivées pour l'instant. 110 000 millions amassés par les Parisiens jusqu'ici, avec deux principales ventes officielles. Gonçalo Ramos, donc, parti au Milan pour 70 millions plus bonus. Le Sud-Coréen, Kang Min Lee, il y a quelques jours, s'est envolé pour l'Atlético de Madrid pour un peu plus de 40 millions d'euros. Ça, c'est avant l'annonce imminente du transfert de Randal Kolo Muani, l'attaquant français qui ne s'est jamais réellement imposé au PSG, direction la Juventus Turin. Un joli chèque de 50 millions bonus compris. Visite médicale prévue ce dimanche. Ajoutez-y quelques prêts, Gabriel Moscardo ou encore Renato Marin, le jeune gardien italo-brésilien qui va aller glaner du temps de jeu en Ligue 1 gauche. Et puis ce n'est pas terminé, quelques dossiers chauds sont encore à régler côté départ. Le plus important, c'est Bradley Barcola. On se rappelle, RMC Sport vous l'annonçait il y a quelques jours, le français ne prolongera pas avec le PSG. Liverpool est très intéressé. Est-ce que les deux clubs trouveront un terrain d'entente cet été? Suspense. Et puis la petite pépite de 18 ans, Ibrahim Mbaye, pourrait aussi quitter la capitale cet été. Paris en réclame 50 millions d'euros. Plusieurs cadors européens en tout cas sont intéressés.
Alors là, ça fait beaucoup de départs ou d'éventuels départs à venir. Est-ce qu'il y a quand même des arrivées pour compenser tout ça?
Alors il y en a une officielle en tout cas qui date depuis un petit moment. C'est le gardien italien Alessandro Longoni, arrivé libre pour remplacer numériquement Marine. Il y a Lucas Digne aussi, le défenseur qui revient au Paris Saint-Germain. Le poste de gardien qui va animer l'été aussi, puisque Paris a fait part d'un intérêt pour Zion Suzuki, le japonais qui vient de disputer le mondial. Peut-être un transfert suivi d'un prêt, sauf départ de Lucas Chevalier cet été. C'est pas la dernière tendance. Et puis dans le secteur offensif, l'annonce se rapproche pour Magnès Akliouche, qui sera bien parisien. Monaco et le PSG se sont mis d'accord. Ne reste que la visite médicale dont la date n'a pas encore été fixée. Paris est toujours à l'affût de profils de jeunes talents. Le club parisien avance par exemple sur le dossier Mika Götze, l'ailier belge de 21 ans qui évolue à l'Ajax. D'autres pistes circulent et mènent à Ferran Torres, Charles de Ketelaer ou encore Rodri. Mais Paris avance à son rythme et fidèle à la doctrine du duo de Luis Campos Enrique, des profils de joueurs qui apportent un plus à l'entraîneur parisien et qui ont envie de rejoindre le projet et à des prix justes. Après tout, c'est ce qui a fait la réussite du PSG ces deux dernières saisons, Flora.
Légèrement, effectivement, t'as raison de le dire. Merci beaucoup Antoine. Évidemment, beaucoup d'ambition encore pour cette saison pour le Paris Saint-Germain. Mais pour tenir ses objectifs, le renouvellement de l'effectif du PSG n'est-il pas indispensable, messieurs? C'est la question qu'on se pose ce matin. Pascal?
Oui.
Fred? Fred, il dort.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça, parce qu'en fait, la question, c'est pas du tout la question que tu as posée au départ. Donc, c'est pour ça que le renouvellement est-il vraiment obligatoire? C'est ça la question.
Oui. Et dit pour indispensable,
moi, c'est
oui.
Non.
Oui, c'est exactement pareil, mais
non, pas du tout.
Ouais, c'est toujours oui. Pour
en fait, il y avait une double négation. Voilà,
merci Pascal.
Il y avait juste Pascal, double négation.
À part ça, il commence à se
rendre. Il est déjà dans les cordes.
Donc c'est compliqué pour moi de répondre à une question qui n'est pas la question qu'on m'avait posée.
Eh bien, réponds à la question qu'on t'avait posée.
Il n'est pas obligatoire.
Très bien.
Indispensable.
Oui.
Oui, merci.
Moi, j'ai bien compris ta question et je réponds toujours la même chose.
Oui. Je te remercie parce que ça va être une longue
après-midi. Tu vois, on m'attaque moi, mais finalement, c'est peut-être toi qui ne poses pas les bonnes questions.
C'est peut-être
qui
est moi
pas
le problème. En fait,
forme.
Le petit couple de l'été, là, s'il vous plaît, on peut revenir à ça.
On attend aussi votre avis, vous, auditeurs parisiens. Venez nous mettre d'accord en plateau. Vous appelez le 32-SEV, évidemment. Vous envoyez vos messages au 06-12-424-424. J'ai l'impression quand même aussi, Pascal, tu me confirmeras peut-être toi l'entraîneur, mais qui a une difficulté pour le Paris Saint-Germain à être en forme à chaque fois, à chaque début de saison. Les saisons sont très longues, on enchaîne beaucoup, on sort d'une saison de Coupe du Monde. Il y a aussi de l'usure physique pour cet effectif parisien, d'où la nécessité aussi d'un renouvellement.
C'est un paramètre supplémentaire pour ce club, qui est un grand club, qui lutte sur tous les tableaux. Les joueurs effectuent chaque saison beaucoup de matchs, trop, de mon point de vue. Et bah, comme il est de coutume pour tous les clubs de sport de référence, comme le football, et surtout pour les grands clubs, eh bien le Paris Saint-Germain se doit de renouveler ses effectifs chaque saison pour préparer davantage que la suivante, mais pour anticiper les saisons futures.
Mais oui.
Et c'est ce que Paris fait très bien. Donc pour conserver une saine émulation au sein du groupe et pour éviter la satiété, parce que quand vous gagnez, comme c'est le cas, anormalement comme l'a fait le PSG, comme un ogre depuis plusieurs saisons, mais notamment les deux dernières, eh bien il faut que lutter contre l'endormissement des joueurs, donc les mettre en concurrence douce, ouais. Préparer l'avenir, c'est aussi anticiper, c'est ce que font très bien les Parisiens, donc rester compétitif dans la durée, mettre un peu de place pour les jeunes joueurs du cru, c'est aussi le cas du PSG, qui n'hésite pas à faire la place, même si les temps de jeu sont tenus aux joueurs de la formation. Donc tout ceci, c'est simplement une cohérence, et c'est une évidence que de répondre oui. Je comprends pas Fred, il a certainement des arguments, c'est certainement dû au basket, ils sont moins nombreux, ils sont 5 sur le parquet peut-être, bon, on n'a pas besoin de les changer beaucoup, une fois tous les 10 ans, je sais pas, mais en toujours est-il qu'au foot, Fred, on est obligé de le faire, et le Paris Saint-Germain le fait très bien.
Oui, je comprends exactement ce que tu dis. Tu es en train de m'expliquer qu'au foot, les joueurs n'ont pas d'ambition et qu'à un moment ils sont à s'inquiéter et qu'ils doivent s'arrêter de continuer à se battre pour progresser. C'est vrai, mais je comprends. Au basket, on n'est pas comme ça. On a cette ambition. Si dans le foot mais vous ne l'avez pas,
ça existe ce dans n'est pas tous les sports, les fins de cycle.
Mais alors oui, mais la stabilité, ça crée des automatismes. Moi, j'ai envie de parler du grand penseur Michael Gregorio. Tu sais ce qu'il a dit, Michael Gregorio? Il a dit quand t'as trouvé le bon filon, c'est con de creuser à côté. Donc tu as une équipe qui fonctionne, tu as une équipe qui travaille bien, tu as une équipe qui connaît les exigences de l'entraîneur et tu vas changer. Alors oui, mais c'est, je suis pas en train
Pascal
de dire...
a raison, il faut penser aux saisons d'après.
Oui, mais
aussi.
Pourquoi ne pas miser et surfer sur cette vague de on a maîtrisé le jeu, on comprend l'entraîneur, on fait des changements à la marge, bien sûr, parce que petits points d'amélioration, c'est intéressant. Mais moi, quand j'entends Pascal parler de satiété,
c'est un des dangers qui gagne.
Je me dis, si on fait du sport et qu'à un moment on se dit oh, qu'est-ce que c'est nul de gagner, qu'est-ce que je préférerais perdre,
il y a une forme de lassitude quand tu es dans une roue.
C'est aussi gagner différemment.
On n'a pas juste la même façon de penser, c'est tout. Moi, si j'ai l'occasion de gagner un triplé, un quadruplé, un quintuplé et j'en passe et des meilleurs, moi je vais être content. Et à mon avis,
c'est l'ensemble du groupe, mais pas tous. La plupart, donc c'est bien ce qu'on dit, c'est nécessaire qu'il y ait un turnover, qu'il y ait du renouvellement, 20-25%.
Des changements à la marge.
C'est le cas du PSG sous l'ère Luis Enrique. Il y a jamais de grands chamboulements. Par contre, renouveler pour que dans les jeux à l'entraînement, il y ait de nouvelles concurrences, pour que les garçons qui se sentent installés aient quand même la sensation que dès qu'ils lèveront le pied, il y a quelqu'un derrière. Renouveler aussi en âge, de combler les départs. Regarde Barcola, il faut le combler parce que t'es pas sûr que le gars va rester, il a envie de jouer plus. Lui aussi fait partie de ses gars.
Il n'est pas content de son temps de jeu.
Il n'est pas content de son temps de jeu, donc il faut renouveler. Et puis le discours. Fred, moi j'entends, je suis fait comme toi. Quand je gagne, je n'ai pas trop envie que ça bouge. Et tant que ça va bien, faisons pareil, ne changeons pas tout. Moi je suis amoureux d'un club qui change tellement qu'il ne s'y retrouve plus. Mais il y a aussi des joueurs qui veulent partir. Et ceux-là, il faut en fait les contenter. Il faut qu'ils s'en aillent. Parce que il n'y a pas pire qu'un joueur qui voudrait partir, qui n'adopte plus le message de son entraîneur, mais qui reste parce que les conditions sont bonnes, je suis bien payé, je suis pas loin du centre d'entraînement, ma famille est à côté, et puis surtout, je joue un petit peu. Ça, c'est terrible. Moi, c'est là où il faut être très vigilant. Et Luis Enrique est excellent avec son staff à ce sujet-là.
Il y a aussi deux autres raisons qu'on n'a pas encore évoquées. Donc, c'est aussi pour continuer à surprendre de tes adversaires.
Mais oui.
Donc quand tu deviens complètement
mais
lisible,
tellement, mais oui.
Et bien tes adversaires, au bout d'un moment, tu les surprends plus. Donc il faut renouveler à ce titre-là. Et puis aussi pour le confort du coach, parce que renouveler son discours face aux mêmes joueurs pendant plusieurs saisons, et bien t'as tout d'un coup une érosion qui s'opère et on t'écoute un peu moins. Et
pour sachant que l'exigence
Fred, je me mets sur la pointe des pieds,
c'est pas ça, c'est que vous êtes en train de me dire qu'il faut changer. Donc s'il faut changer, évidemment qu'il faut des changements à la marge, c'est la base d'une équipe tous les ans.
Qu'est-ce qui se passe au PSG depuis 3 saisons, 4 saisons?
Mais moi la question c'est, est-ce qu'on a changé le 11 majeur? Est-ce que là, avec les nouvelles
arrivées... Il évolue.
Il y a des changements à la marge. Mais
je vous pose la question. T'as quand même un changement majeur.
Et après, je vous dis deux phrases et vous êtes d'accord avec moi. C'est magnifique.
Marquinhos est extrêmement performant, Fred. Que de ne pas songer à son remplacement serait une grave erreur de la part du PSG. Donc il faut l'anticiper. Et ça ne veut pas dire que Marquinhos ne jouera pas la saison prochaine, bien entendu.
entendu, mais il faut anticiper son prochain retrait, parce que ce retrait-là, il arrivera obligatoirement, immanquablement, Fred.
Puis t'es obligé d'anticiper les éventuelles blessures aussi au cours de la saison.
Je pense qu'on n'est juste pas d'accord sur ce qu'on est en train de dire. On parle de renouvellement, pour moi, c'est un gros renouvellement, un changement. Mais encore une fois, quand c'est à la marge, quand c'est une anticipation, c'est complètement différent. Ben si, en fait,
je dirais que moi, j'ai du PSG. Donc si, si tu regardes PSG et renouvellement, tu t'aperçois que c'est à la marge.
Pour continuer à gagner, le renouvellement est-il obligatoire? À aucun moment il est précisé un renouvellement à la marge. Un renouvellement. Un renouvellement, ça veut dire
renouveler
et changer au moins la moitié de l'effectif, ou en tout cas se préparer à ce changement.
Cette année, le PSG doit changer un tiers de son effectif.
Évidemment qu'il faut ponctuellement apporter des touches de fraîcheur, de jeunesse, d'anticipation. Non,
c'est pas ça.
C'est que extrêmement ponctuellement et à la marge. Vous êtes en train de parler d'un renouvellement. Je ne parle pas de renouvellement, hein. Je parle d'apport. Alors, pour continuer à progresser.
Attention aussi aux erreurs de recrutement. Pascal, tu nous parles quand même d'un changement d'un tiers de l'effectif.
Oui,
hein.
Parce que je suis pas le seul à le penser, mais le Paris Saint-Germain manque de profondeur de banc. Donc c'est la bonne année pour faire en sorte que le PSG, qui est sur le toit de l'Europe, profite de son aura grandissant pour recruter de jeunes joueurs qui, patiemment, vont devenir les futurs titulaires du Paris Saint-Germain. Je dis pas que ça doit être facile, parce qu'il faut acheter au prix juste. Et depuis deux ans, le PSG le réussit, ce tour de force. Très difficile quand t'es PSG, quand t'es le Qatar, d'acheter au prix juste, qu'on soit bien d'accord. Mais il est important, et je pense que cette saison-là est prépondérante à ce titre-là.
Il y a des choix aussi qui sont maintenant un peu mis en avant. On parle de Ferran Torres, on parle de Pedri, mais c'est des joueurs qui sont très très installés. Je pense que ça permet aussi à travailler ailleurs sur d'autres profils. Le PSG nous a donné l'habitude quand même depuis quelques temps, Luis Ocampos, d'aller chercher des joueurs qu'on n'attend pas. Et c'est plus facile aujourd'hui quand t'es le Paris Saint-Germain, même s'il faut évidemment s'aligner sur les prix, d'aller chercher des joueurs plus importants. Mais il faut pas s'attendre, pour moi, à des joueurs stars.
Mais est-ce que c'est mieux d'aller chercher des joueurs important? Moi, je pense que justement, il y a une académie.
Non, mais là, on parle de Pedri, Ferran Torres, c'est des joueurs très importants. C'est des joueurs qui apporteraient à la profondeur de ce banc et à ce PSG-là.
Est-ce qu'on en a eu besoin jusque-là?
Si le joueur
a gagné deux titres de Ligue des Champions,
faut que tu remplaces Barcola.
Ok, je pense que ces deux joueurs.
Parce que lui veut partir, je l'entends, mais c'est les seuls changements majeurs.
Ils ont vendu Gonzalo Ramos.
Ça paraît important.
Mais il y a aussi comblé des erreurs de recrutement. On parlait tout à l'heure de renouvellement. Là, il y a un joueur qui revient, qui s'appelle Renato Sanchez.
Avec on avait même oublié d'ailleurs qu'il était en contrat avec
les Parisiens. Il est comme Colomouani qui va être vendu à la Juventus. Mm. Et ces garçons-là, Renato Sanchez est un très bon joueur de foot. Mais entre-temps, il y a João Naves et Vitinha. Tu fais quoi avec ce garçon-là? Il veut jouer. Il a besoin de jouer. Ben, tu le prêtes. C'est pour ça aussi qu'un jour, peut-être, ces garçons qui sont en place. On a quand même entendu il n'y a encore pas si longtemps que certains joueurs avaient des velléités de départ dans cet effectif, même en gagnant. Donc effectivement, il faut recruter un peu plus large pour compenser d'éventuels départs. Mais compenser large, ça veut dire des garçons qui ont pas trop d'ego encore pour accepter de ne pas jouer, de prendre le temps de venir. Et ça, moi, je trouve, à l'image de João Neves, par exemple, qu'ils ont été fabuleux dans le recrutement. Et le travail de Luis a été très bon. Mais il n'empêche qu'il est nécessaire de chambouler ton groupe. Quand tu dis
déjà chambouler, je suis pas d'accord. C'est le terme chambouler qui dérange. Apporter des pièces, apporter une vision, apporter des jeunes joueurs prêts à faire les efforts que tu viens de dire. Ok, mais c'est pas un chamboulement pour moi, justement. C'est un
quand
apport.
Tu te retrouves
un tiers de l'effectif, c'est pas un chamboulement.
Mais non, c'est pas un chamboulement.
Un tiers de l'effectif, c'est pas un chamboulement.
Pour moi, un tiers, c'est beaucoup. C'est trop pour moi.
Il n'y a pas de nécessité à ça.
Un tiers, ça sera
toujours un tiers. Oui, mais si c'est sur 100,
ça fait 33 par exemple.
Mais Pascal, quand t'es à la rentrée des classes, t'as 7-8 nouveaux.
Au contraire, c'est bien, c'est très bien. Ça veut dire que le club est... Bah non, c'est au contraire, c'est motivant pour tout le monde, ça met tout le monde en éveil. Ouais, franchement,
c'est
Paris Saint-Germain.
C'est la difficulté aussi, Pascal, pour ce projet parisien, évidemment, dans le discours de Luis Campos avec les joueurs qu'il essaye de recruter, d'avoir ce discours de venir au Paris Saint-Germain, mais pas forcément pour être titulaire. Donc, faut arriver à amener ça aussi de façon assez subtile pour attirer les joueurs.
Pour s'inscrire dans un projet, collectif. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants du Paris Saint-Germain peuvent se targuer d'être deux fois champion d'Europe consécutivement, mais surtout de proposer aux joueurs de jouer en Ligue 1, en Ligue des Champions, en Coupe de France, Coupe de la Ligue, et de faire Trophée des champions et de faire en sorte que bah, oui, ces joueurs jouent un certain nombre de matchs, toujours à 100%, et surtout dirigés par un entraîneur qui a l'art de maîtriser son vestiaire. Mmh. Et je pense que, franchement, que c'est la saison pour le PSG. Si l'on prend l'exemple d'Hakimi, il faudra très vite réfléchir au fait qu'Hakimi installé, l'un des meilleurs latéral droit du monde, eh bien, sera peut-être dans quelques temps moins performant. Donc,
tu es en train de dire, Pascal, que tu renouvelles pas l'effectif, mais par contre, tu l'étoffes. Tu mets plus de joueurs en concurrence.
Mais étoffer, c'est renouvelé.
C'est pas renouvelé.
C'est renouvelé.
Renouvelé, c'est le sens de renouveler.
Vous savez, voilà. Malheureusement, le français est
j'ai
très,
pas pris
compliqué.
Le petit Robert,
les
mais renouveler, je comprends ce que ça veut dire.
Un sens. Renouveler et étoffer, c'est pas la même chose.
Renouveler, c'est pas chambouler. Tu voudrais nous faire passer pour des personnes qui veulent tout chambouler alors que ça marche.
J'ai l'impression, vraiment.
Mais tu ne convaincs personne, d'ailleurs, les auditeurs.
D'accord. Je suis ravi que vous me donniez raison. Finalement, il ne fallait pas renouveler, mais moi je trouve ça parfait, Pascal.
Écoute,
parce que c'est exactement, on est d'accord
sur
ce point,
il ne faut pas renouveler.
Si tu dors mieux quand tu as raison, Fred, oui, tu as raison.
Voilà, je pense que ça va lui faire du bien.
Je dors toujours bien, et j'ai toujours raison.
Messieurs, on se retrouve dans quelques instants, 9h25, dans les grandes gueules du sport. On va poursuivre ce débat sur le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup à Antoine Sabardin pour les précisions sur le mercato du PSG. On y revient dans quelques instants après une courte pause, histoire que tout le monde reprenne un peu des forces et de l'énergie. A tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Messi. 9h29 sur RMC, on est de retour dans les grandes gueules du sport. On vous accompagne jusqu'à midi avec Fred Weiss, Pascal Duprat et Jérôme Pinon. On vous attend aussi au 32-16 pour venir participer avec nous et débattre avec les GG très en forme ce matin, c'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement que Fred m'a dit qu'il était fatigué, c'est toujours comme
non,
ça.
Non mais je viens de faire une micro-sieste comme je savais que j'avais raison, grâce à Jérôme j'ai pu faire une micro-sieste. Merci beaucoup Jérôme.
La une des GG, ça continue avec cette question, le PSG doit-il impérativement renouveler son effectif pour continuer de gagner les GG. D'ailleurs, si on s'intéresse de près à l'effectif.
Fred Weiss doit renouveler son affectif, lui.
Il doit même le démarrer, tout simplement.
Je ne sais pas ce que c'est, l'affectif. Moi.
Tu devais être une pompe pour tes entraîneurs, toi, je te dis pas. Tous les jours, il fallait te dire Messi, t'es plus fort.
Mais c'est vrai,
c'est toi le meilleur.
Mais
tu as raison.
Mais c'est tellement
bien.
Mais j'en ai conscience, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu ne me le dis pas assez, Jérôme.
C'est pour
ça
que je t'ai pris sous mon aile, quand on était à Limoges.
Ouais, enfin, tu montais sur une échelle. J'étais obligé de me pencher quand même.
On a des auditeurs qui nous ont appelés ce matin au 32-16. Malcolm, supporter parisien, est avec nous. Salut Malcolm.
Salut, comment allez-vous?
Bah ça va bien, et toi, t'as entendu le débat très houleux autour du Paris Saint-Germain, toi qui es un supporter du PSG. Qu'est-ce que tu penses de cette nécessité ou non, d'ailleurs, selon toi, de renouveler cet effectif parisien?
Bah en fait, surtout renouveler l'effectif, c'est pour préciser quel poste d'effectif tu renouvelles. Surtout des remplaçants que tu prends, qu'on prend des remplaçants surtout pour la Ligue 1. Par exemple, Nuno Mendes, qu'on prenne digne, bah, c'est pas déconnant pour la Ligue 1, sachant que Lucas Hernandez, c'est de plus en plus compliqué en latéral.
Et puis Mendes derrière, est souvent blessé, hein, donc potentiellement,
oui,
que
donc
finalement, ce sera.
Un... Jouer en Ligue 1, c'est pas une perte.
En plus, Lucas dit, il peut jouer en Champions League aussi, quand même.
Hein. Ouais.
Oh, oui, mais enfin, Lucas dit, il peut jouer en Champions League, je fais quand même plus confiance à Nuno qu'en Lucas Digne.
Oui, après, si tu le recrutes, c'est aussi pour pallier les. Parce que tu sais que Mendes est fragile sur toute une saison.
Oui.
Hein.
Et même Lucas a dit justement qu'il était là pour accompagner Nuno, donc il y a ça. Et aussi justement, bon alors, j'avais entendu Flora qui disait le PSG a du mal au début, mais vaut mieux être pas ouf au début et être très bon à la fin, c'est pas dérangeant.
Non, je disais que c'était compliqué sur toute la saison finalement, qu'il y avait eu pas mal de blessés
après,
la saison dernière aussi. Et que
mais
du
la
coup,
dernière, faut prendre aussi en compte qu'ils n'ont pas eu de pause.
Parce oui, mais c'est pour ça que je le disais. Club. Exactement,
alors
c'est pour ça que
saison,
je le dis.
Cette saison, il y a déjà plus de joueurs qui ont eu des pauses. Par exemple, avec Kvaratskhelia, il y a eu une vraie pause, par exemple.
Bien sûr, mais t'as quand même enchaîné avec la Coupe du Monde aussi. T'as un influx nerveux,
oui,
t'as beaucoup de choses.
Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a plus de joueurs qui ont eu des pauses. Il y a eu ça. Et après, justement, alors, je comprends le propos de Fred Weiss, où justement, faut une certaine dynamique, etc. Mais comme j'ai dit, c'est les remplaçants qu'on change. Et que Ramos, on voyait que c'était un peu compliqué, enfin, qu'il commençait un peu à être agacé. Pareil pour Lindin, qui lui ne le cachait pas du tout. Donc pour le coup, genre et même Barcola, on a appris justement que lui il considère qu'il n'est pas vraiment respecté. Bon bah oui, il faut changer les remplaçants, il faut amener une certaine nouvelle dynamique. Mais le 11 titulaire, pour l'instant, il bouge pas. Donc enfin le 11, on va dire les 10 joueurs de champ et le gardien, on verra.
Pascal.
C'est un raisonnement qui est trop simpliste en fait. Tu penses qu'un joueur de foot aujourd'hui se contente d'arriver au PSG et qu'on lui dise écoute, t'es remplaçant, tu t'assois sur le banc, tu joues quand ça compte pas.
Non,
en fait, je pense que le projet du PSG, il est plus sur la durée. C'est-à-dire prendre des joueurs qui aujourd'hui sont compétitifs. Et qui deviendront les futurs joueurs titulaires du Paris Saint-Germain. C'est dans cet état d'esprit, sauf à prendre un joueur comme Rodri, par exemple, qui, même si le PSG est performant, si tu as l'opportunité de prendre Rodri, eh bien au PSG, tu dois le prendre. Tu dois le prendre parce que si,
t'en fais quoi de Rodri, Pascal? Parce que Rodri, tu le fais pas venir pour être sur le banc.
Avec le nombre de matchs que le Paris Saint-Germain dispute chaque saison et avec le savant dosage de Luis Enrique.
Pascal, il y a des matchs plus importants que d'autres. Il y a beaucoup de matchs, mais il y a des matchs plus importants que d'autres.
On est bien d'accord que le Paris Saint-Germain, et on a tous cette croyance-là, parce qu'ils nous ont donné l'eau à la bouche deux saisons de suite, à l'opportunité, je vois pas pourquoi ils le revendiqueraient pas, de gagner une troisième Ligue des Champions consécutive. Ça induit que tes joueurs doivent être, entre guillemets, désinstallés. Ça veut pas dire qu'ils sont pas, réduits à la portion congrue, si l'un des titulaires vainqueurs de la Ligue des Champions venait à jouer jouer un peu moins ou partager son temps de jeu.
Regardez la saison de Vitinha.
Cette approche-là.
Vitinha a pas toujours été un fabuleux joueur, il a brillé dans les grands moments, mais on peut aussi se dire qu'on a déjà tremblé dès qu'il a été blessé parce qu'on se dit qui va jouer à sa place lorsqu'il n'est pas là. Le PSG ne peut pas se le permettre s'il veut encore et continuer à gagner. Et puis des inconstances parfois de certains de ses joueurs, même au milieu de terrain. L'arrivée de Pedri va pas chambouler. Puis je pense, et là c'est à toi que je parle, Pascal, le manager, il faut aussi voir l'homme. Est-ce qu'il est capable d'entrer dans ce vestiaire et de s'y faire de suite, de s'adapter de suite.
C'est l'homme d'abord,
mais bien sûr, c'est ce qu'ils font très bien.
À partir du moment où les critères sportifs sont remplis, il est certain que ce qui est important, c'est le garçon, c'est l'homme.
Tout à l'heure, on parlait des 7-8 joueurs de plus. C'est très malin et de toute façon, c'est du management pur. C'est ce que tu apprends dès les premières heures quand tu apprends ce métier. Il faut savoir que si tu veux intégrer des joueurs de talent dans un vestiaire, si tu les remplace par 10 ou 15, le noyau dur n'existe plus. Donc qui est-ce qui fait que tu t'insères dans un vestiaire? C'est les gens en place, c'est les gens qui sont là et qui font la réussite du club. Si tu les sépares de trop, puisque tu t'en sépares, si tu prends 10, 12 nouveaux joueurs, tu t'en sépares forcément d'une partie de ce noyau dur. Donc t'as plus tes repères d'adaptation. Qu'est-ce que font Luis Ocampos et Luis Enrique? Ils regardent d'abord l'ambiance de son vestiaire, le noyau dur, comment il vient ce gamin, comment il s'insère dans ce noyau dur. Puis une fois que ça va, le football, ils connaissent. Et ça va rouler.
Jérôme, c'est là qu'on se rejoint, plutôt que de s'éloigner comme vous tentez de le faire, c'est là qu'on se rejoint. C'est-à-dire que, pour moi, quand je parle de renouvellement, c'est un renouvellement conséquent. Quand ce que t'expliques, et c'est ce que j'explique depuis le début, pour moi, il faut un noyau dur. Faut que quand on arrive au PSG, il y a la continuité d'une part dans le jeu, mais aussi effectivement dans le vestiaire.
Quand on parle du renouvellement du Paris Saint-Germain, oui, mais le renouvellement depuis 4-5 saisons,
c'est à la marge.
C'est à la marge. Mais
c'est ce que je te dis. À la marge.
Mais c'est quand même nécessaire.
Je pense que c'est nécessaire à la marge. Sauf que le renouvellement s'entend plutôt comme un renouvellement. C'est une réoxygénation.
Oui, mais ça veut pas dire que tu changes tout le monde pour autant.
Ouais, mais Fred, tu me dis ça. Regarde, on va prendre des postes. Tout à l'heure, on parlait de postes.
Cette question.
Avec Pascal, on peut parler de poste. On a mis Lucas Digne en doublon avec New Mendes. C'est pas rien. On parle de Pedri à l'arrivée au milieu de terrain avec Vitinha et
Neves.
C'est pas rien. L'année dernière, on a recruté Lucas Chevalier et Safonov qui sont tous les deux goals. On va chercher un gars. C'est pas rien. Enfin,
Jérôme, ne te méprends pas. C'est pas sur la qualité que je dis qu'il faut que ça soit un petit changement. C'est sur la quantité. Parce qu'encore une fois, ils sont garants de façon.
Je vais te donner des clubs. J'habite dans une ville où la quantité, on renouvelle tous les ans. Ça marche pas non plus, ça. Ils sont pas idiots, les mecs au Paris Saint-Germain.
En fait, c'est sur le mot renouvellement qu'on n'est pas d'accord. Mais dans l'absolu, on est d'accord. Parce que oui, t'es obligé d'apporter de la concurrence. Oui, t'es obligé d'apporter de la jeunesse. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es obligé d'avoir les garants de l'ordre, en fait. Les garants de la façon et de la politique du PSG.
C'est ce que disait Pascal aussi quand il parlait très bien de Marquinhos. C'est-à-dire que t'es obligé aussi de de penser au moment voilà, où ces joueurs qui font partie du noyau dur vont partir à un moment donné ou vont être en meilleure forme.
L'anticiper, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne vas pas tout chambouler. Et ce renouvellement, encore une fois, sur ta question.
Mais si tu
ne
veux pas tout chambouler, il faut le faire au fur et à mesure.
Mais je suis d'accord, mais pour moi, ce n'est pas un renouvellement.
C'est toi qui n'as pas compris la signification du mot renouvellement. Parce que nous, on l'a pas parfaitement compris. Renouveler, c'est pas chambouler. Nous, on ne parle pas de chambouler.
On renouvelle une équipe, on change quasiment tout. C'est ça, un renouvellement d'équipe.
Mais non, pas forcément.
Et donc, en fait, c'est sur cette définition.
Si tu changes un élément, tu es dans un renouvellement.
Oui,
tu changes un élément. Tu vends un joueur et tu rachètes un autre.
Mais dans ce cas-là, la question n'a aucun sens.
Ça veut dire l'action de remplacer une chose par du neuf. Voilà. C'est le renouvellement, c'est la définition.
Donc, redis-le, s'il te plaît.
C'est l'action de remplacer une chose par du neuf.
Oui, mais donc, quand tu changes tes pneus, tu renouvelles.
Ça ne veut pas dire pas tous.
Bah, si, une chose. C'est une globalité, en fait.
On n'est pas sur un débat de dictionnaire ce matin. On va accueillir Tempéré, qui est avec nous, supporter. Tempéré, pardon. Salut, Tempéré.
Salut, comment ça va?
Bah, ça va très bien. Et toi, t'arrives au milieu d'un débat un petit peu animé. Je sais pas si t'as un dictionnaire sous le nez ou pas. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de la nécessité, justement, de changer quelques joueurs du côté du PSG?
Moi, je dirais que ce serait très important d'apporter du 109 au sein de l'effectif du PSG. Parce qu'après deux victoires consécutives à Ligue des Champions, il y a des joueurs qui peuvent faire
une motivation
ou ne plus progresser également. Et après, ça te permet aussi, dans un second temps également, de préparer l'avenir. Et après aussi, chaque année, tu t'adaptes aux nouvelles exigences du football moderne. Hein, parce qu'on a vu que d'une année sur l'autre, le football peut vachement évoluer.
Et t'as raison de le dire. Effectivement, ce qu'on parle, on est très centré sur le Paris Saint-Germain, mais il faut aussi penser que les autres effectifs européens se renforcent, se renouvellent là aussi, eux, pour essayer de concurrencer la cible numéro une en Europe, qui est le Paris Saint-Germain. Donc effectivement, t'as raison de dire qu'il va falloir...
Pascal.
Mais oui, il va falloir aussi répondre à la concurrence qui va être en face.
Mais c'est plus facile de répondre à la concurrence quand on a des très bonnes fondations. Dans ce cas-là, ne pas changer une grande partie de l'effectif.
Non, mais il y a aussi le fait de recruter les joueurs de pointe, les jeunes joueurs qui ont brillé en Europe aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain peut en attirer deux ou trois, c'est aussi appauvrir la concurrence que de les recruter.
C'est vrai aussi, oui.
Donc c'est aussi une stratégie.
C'est une logique.
Donc, et encore une fois, Fred, quand tu changes les pneus de ta voiture, tu changes pas toute ta bagnole. Ok?
Ah non?
Tu essayes de la rendre sur le long terme plus compétitive.
Tu sais par contre que si je fais un renouvellement de pneus, je suis obligé d'en changer deux. Je peux pas en changer qu'un, par exemple, des pneus. Et c'est la même chose. C'est un renouvellement. Si on parle de renouvellement, c'est qu'on change beaucoup de choses. Et
mais
pas
non,
seulement.
Pas tout. Bon, on va pas faire le débat sur le pneu toute la matinée.
Non, mais c'est hyper important, en fait, parce que c'est là qu'on est notre point de désaccord. Parce que sinon,
t'as pas un paracétamol, Flora, tu le donnes à Fred.
Non, mais la question est de savoir, est-ce qu'on doit évoluer pour continuer à gagner? Mais évidemment, encore une fois, à la marche, tu es obligé d'incorporer de nouveaux joueurs.
Alors,
les joueurs
si, et ça, c'est si on est à peu près tous d'accord,
là, tout le monde est d'accord
là-dessus.
En fait.
Alors,
non, mais Tempéré, il nous a donné la bonne formule. Il faut apporter du 109. Voilà ce qu'on peut appeler du renouvellement.
Exactement.
Apporter du 109.
Et c'était dans ce sens-là, d'ailleurs, pour préparer aussi la saison
prochaine.
Sauf Fred.
Pour terminer ce débat, on va poser juste une question simple sur cette saison du PSG. Est-ce qu'ils peuvent à nouveau viser ce doublé Ligue 1, Ligue des Champions? Est-ce que ça vous semble plausible quand on parle justement peut-être, Pascal, de cette concurrence aussi accrue davantage chaque saison en Ligue des Champions?
En fait, moi je regarde la concurrence et je me dis que le PSG est le favori encore une fois cette saison. Voilà. Est-ce que Harry Kane va être aussi prolifique qu'il l'a été la saison dernière au Bayern, parce que la barre est placée très très haute. Est-ce que le Real va réussir à régler ses problèmes d'équilibre d'équipe? Est-ce que le Barça va réussir à revenir sur le devant de la scène? Toutes ces questions-là, elles sont posées. Par contre, pour ce qui est des certitudes, il y a que le PSG. Je suis donc optimiste. Je pense que le PSG.
Tu n'as pas parlé de l'autre finaliste, Pascal. C'est marrant, on n'en parle jamais.
Arsenal.
Parce que je vois pas Arsenal.
La continuité.
Durer. Ah voilà, oui. Je vois pas Arsenal durer, je vois plutôt Manchester City,
Manchester City sous sa nouvelle ère. City qui démarre un nouveau cycle, hein,
voilà,
donc, sans Pep Guardiola.
Et aussi le Real, parce que le recrutement.
Oui,
le
ça dure jamais longtemps, les mauvaises périodes au Real.
Ouais, ouais.
Fred, ton avis, toi, sur
mon avis, c'est que si tu gardes l'ossature intacte, ben, je pense que c'est parfait. Oui, mais bien sûr, pour, quand on a une équipe qui gagne, qui a une, un esprit de jeu, qui comprend.
Il y a de la fatigue quand même, coach, au bout d'un moment.
Mais la fatigue, en fait, c'est des athlètes, en fait, c'est, ça, je peux pas le tolérer. Cette phrase, la fatigue, je peux pas le tolérer.
Ça veut dire que dans les autres clubs,
ils jouent pas de match, ils entraînent pas, ils font rien, quoi.
Mais non, mais
c'est complètement ridicule.
Mais tu viens de me dire, si tu gardes la même équipe depuis 3 saisons, évidemment qu'elle est fatiguée au bout d'un moment.
Mais non, mais tu changes quelques, mais tu t'apportes quelques touches, mais il faut garder une ossature. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord avec
les.
Mais si tu as gagné.
Jérôme.
On peut faire la comparaison avec l'équipe de France de football, qui a toujours très bien, sous l'air des chambres, su renouveler à dose homéopathique son effectif. Et c'est de la même chose pour le Paris Saint-Germain, ils le font très bien. Donc ils continuent à le faire, mais un peu plus soutenu cette saison.
Un dernier mot avec toi, Jérôme.
Non, mais moi je suis d'accord avec Pascal et Fred. Si en plus ils affichent le même tempérament.
Tu es Denis Charvet du truc, toi.
Ben non, je suis d'accord avec vous sur le fait que le Paris Saint-Germain peut, oui. Aujourd'hui, ils n'ont pas joué un match. Ils ont peu renouvelé et l'équipe a tout gagné l'an dernier. Donc oui, ils peuvent gagner tout l'an prochain. S'ils affichent le même état d'esprit que contre le Bayern au retour et un jeu magnifique comme ils ont pu développer en quart ou en huitième, ben évidemment qu'ils sont favoris. Après, ce qu'ils vont gagner, j'ai pas vu les matchs des autres non plus. Et oui, et en plus, l'expérience.
La confiance, et la défiance.
La confiance d'un groupe qui n'a pas beaucoup changé, je suis d'accord avec vous. Cette confiance-là, ça.
En tout cas, les cadres n'ont pas changé, les cadres savent gagner.
Ça n'a pas de prix d'avoir cette confiance.
Et qui va avancer effectivement avec une cible dans le dos pour cette nouvelle saison.
Attention quand même, pour ces joueurs-là, ils sortent tous d'une compétition qui est à peu près tous perdus.
Effectivement, il y a l'état d'esprit aussi dans lequel on revient, les joueurs, tu as raison de le dire à Jérôme. Merci à TPR et à Malcolm de nous avoir appelés ce matin. Continuez d'appeler au 32-16 pour venir participer avec nous. Les GG du sport reviennent tout de suite. Il est 9h43. Une petite pause et puis juste derrière on va zapper un petit peu.
RMC 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. 9h46, merci d'être avec nous sur RMC. Vous êtes dans les grandes gueules du sport. On est au rendez-vous tous les week-ends de 9h à midi. Aujourd'hui, on est avec Pascal Duprat, Jérôme Pinault et Fred Weiss. On vous rappelle le WhatsApp pour nous laisser vos petits messages au 06 12 424 424. Il est 9h45. C'est l'heure de zapper un petit peu.
RMC. Le zapping des grandes gueules du sport.
La victoire de Lorena Vibes sur la première étape du Tour de France Femmes. Premier maillot jaune donc de cette grande boucle. On s'en fout ou on s'en fout pas ? Jérôme.
Bon, on s'en fout pas.
Évidemment. Pascal.
Bon, on s'en fout pas.
Fred.
Je m'en fous pas, je vais écouter Jérôme, mais surtout, surtout, Maria Azé.
Exactement, quel accueil. Ouais, j'ai même pas besoin de lancer Maria Azé, qui est là évidemment ce matin avec nous, qui commente cette Tour de France Femmes sur RMC. Salut Maria.
Salut Flora, salut tout le monde.
Alors, elle était la grande favorite, hein, Lorena Vibes, de cette première étape, promise aux sprinteuses, enfin entre les sprinteuses et les puncheuses, on savait pas trop. Et finalement, elle a mis tout le monde d'accord. Hein.
Ouais, on se posait un peu la question hier matin, 4 difficultés répertoriées. Est-ce que les sprinteuses allaient réussir à passer les bosses pour s'imposer à l'arrivée? Aucune n'est passée, sauf une, évidemment la meilleure sprinteuse du monde néerlandaise, Lorena Vibes, qui a réussi à résister aux attaques de Célie Agiri et de Demi Vollering, notamment, qui voulait aussi remporter l'étape. 6e victoire sur le Tour de France Femmes pour la néerlandaise, qui est tout simplement exceptionnelle, hein, dès qu'il y a une étape de sprint et dès qu'il faut accélérer un petit peu. La belle histoire hier aussi, c'est le maillot à poids pour la Française Océane Maë, 24 ans, la coureuse de Ma Petite Entreprise qui a très très bien joué au sommet des difficultés répertoriées hier pour récupérer ce maillot à poids. Et on l'écoute à l'arrivée hier parce qu'elle était tout simplement ravie, la Française.
C'est fou, enfin, moi c'est mon premier Tour de France, c'est la première étape, c'est le premier tour de l'équipe, je suis super contente. On montre qu'on n'a pas à rougir devant les autres grosses équipes et c'est un maillot absolument mythique, donc c'est génial. Je vais me regarder dans le miroir beaucoup là, je pense.
On aime la spontanéité de la réaction, effectivement. Maria, à quoi on peut s'attendre aujourd'hui? Est-ce que ça va être le même type d'étape ou on peut voir éventuellement des Françaises briller aujourd'hui?
Ça va être un petit peu le même style de scénario. Il y a 5 difficultés répertoriées, 3 côtes de 3e catégorie, 2 de 4e catégorie. La petite différence avec hier, c'est que la dernière difficulté, elle était vraiment à l'arrivée. Là, après la dernière difficulté de 3e catégorie, il restera 35 km de course. Donc ça laisse le temps aux sprinteuses de revenir s'il y avait eu quelques attaques avant dans les difficultés. À voir, à moins qu'une échappée parvienne à aller au bout. Mais normalement, aujourd'hui, c'est plutôt une étape réservée aux sprinteuses une nouvelle fois, une nouvelle étape 100% Suisse avant le retour en France demain.
Mais oui, effectivement, pour ce Tour de France femmes. Merci beaucoup, Maria. On te retrouve évidemment toute l'après-midi avec Pierre Thévenet, Johan Bredov dans l'intégrale Tour pour suivre cette deuxième étape du Tour de France femmes. Merci, Maria. Jérôme, justement, les enseignements de cette première étape. Un petit mot aussi quand même sur Pauline Ferrand-Prévot qui a vécu une journée plutôt tranquille, qui s'est pas mise en difficulté, alors qu'il y a eu plusieurs chutes quand même, donc ça aurait pu être un petit peu piégeux.
Ouais, le premier enseignement, c'est que Lorena Vibes est bel et bien l'équivalent des Van Aert, des Van Der Poel ou des Pedersen chez les filles. Elle passe partout, elle est la plus forte, elle est costaud, elle prend ses responsabilités et elle va très vite. Après, derrière, pour le classement général, je dirais heureusement ou malheureusement, on a déjà quelques lignes de tracé puisque les 10, 12 meilleures coureuses sont déjà en tête alors qu'on a monté les cotes de 3e et 4e catégorie. Il y a Marlène Rösser a fait une mauvaise opération puisqu'elle est tombée, donc c'est jamais très très bon de tomber. Concernant Pauline Ferrand-Prévot, étape nickel, elle a pas pris de risque, elle a pas été piégée dans les cassures, elle a pas été prise dans les chutes, pas de problème, enfin tous les moyens sont au vert et on attend avec impatience la montagne avec elle. On peut tirer un grand coup de chapeau par contre à la petite Océane Maé qui a tout fait à l'avant. En revanche, pour son équipe et deux autres de ses collègues, c'est très compliqué puisque hier à l'arrivée, il y a une de ses consoeurs, collègues d'équipe qui est déjà hors délai et ça c'est dommage. Et on a Célia Lemuel qui est la dernière de l'étape et qui a aussi frisé l'élimination. Donc Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il va y avoir une baston folle. Il fait très chaud cette année et qu'il y a un niveau exceptionnel chez les 15-20 meilleurs coureuses. Derrière, c'est la lutte. Et ça, c'est aussi pour ça que ça tombe. Parce qu'il y a un tel écart de niveau certaines parfois que parfois, quand on est au taquet, on va au tapis. Quoi.
Oui, c'est ça aussi le risque. Tu as raison de le préciser. Allez, Arthur Géa qui a remporté le premier tournoi de sa carrière, victoire à l'ATP 250 de Los Cabos, c'était très tôt ce matin. On s'en fout, on s'en fout pas. Pascal.
On s'en fout pas.
Fred.
Je m'en foutais hier, je m'en fous toujours.
Jérôme.
Ah ben je m'en foutais pas hier, donc je m'en fous encore moins aujourd'hui.
Le Français a dominé en finale Denis Shapovalov en deux petits sets, victoire 6-3, 6-4 à seulement 21 ans. Il décroche donc le premier titre de sa carrière. Et c'est dans la lignée de la victoire de Quentin Alice et de Luca Van Aché aussi qui ont remporté un tournoi ATP 250 cette saison. Le tennis français va bien, Pascal, en ce moment?
Ben oui, c'est la loi des séries. Et c'est important de le mettre en lumière. C'est son premier tournoi, je crois.
Est-ce que c'est maintenant que je dis que tu avais parié sur la victoire de Shapovalov ou pas?
Ben oui, mais rappelle-toi, pour être tout à fait transparent, j'ai dit que je voulais pas lui porter la place. C'est pour ça que j'avais parié sur son concurrent.
Eh bien bravo, tu as réussi, Pascal. L'AS Monaco, champion de France de basket, interdit de Betclic Elite 2 et de Betclic Elite 2, pardon. Pour des raisons financières, du coup, le club français ne pourra pas évoluer, en tout cas pour le moment, au niveau professionnel. On s'en fout ou on s'en fout pas? Jérôme.
Je m'en fous pour laisser parler Fred.
Pascal.
Je m'en fous pas, mais je vais laisser parler Fred quand même.
Fred.
Je m'en fous pas et je vais parler.
Très bien. On l'évoquait hier justement avec toi Fred, on pensait à l'AS Monaco sauvé, mais finalement non, la DNCCG avait initialement refusé l'engagement du club monégasque dans l'élite. Et pourtant, tout semblait réglé depuis avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Mais la chambre d'appel de la Fédération française de basket a confirmé la sanction, justifiant que l'ASM n'avait pas été en mesure de produire les documents sollicités dans les détails impartis. Monaco ne peut donc pas évoluer dans le basket professionnel la saison prochaine. Dernier recours pour Monaco, le tribunal administratif via le CNOSF. Ça va très mal là. On imagine vraiment Monaco ne pas pouvoir évoluer dans un championnat pro la saison prochaine?
Oui, bien sûr qu'on l'imagine. Alors on comprend rien du tout. Hein. Le président de la Ligue nationale nous prêche le chaud et le froid. On a du mal à comprendre ce qu'il veut nous expliquer. Un coup, il nous dit de façon certaine que Monaco sera en Betclic Elite.
Il a très vite communiqué.
Ensuite, il rétropédale. D'ailleurs, il n'a pas daigné communiquer avec nous parce qu'il savait pas exactement quoi nous dire. Quand le président d'une ligue ne peut pas te répondre sur la possibilité d'une équipe d'évoluer dans cette compétition, ça paraît très compliqué. Donc oui, on se pose beaucoup de questions. C'est un club qui commençait à prendre énormément d'importance dans le basket français. C'est un club qui était en Euroleague, c'est un club qui a été au final fort de l'Euroleague, qui a joué une finale de l'Euroleague. Donc c'est vrai que ça pourrait être une perte énorme. On s'inquiète un petit peu. Bien sûr qu'on s'inquiète un petit peu, mais c'est vrai qu'on a du mal à savoir exactement ce qu'il en est. Mais moi, je pense surtout à l'équipe de Saint-Quentin qui attend la décision pour savoir s'ils vont jouer en Betclic Elite ou s'ils seront en élite. l'élite de l'année prochaine, ce qui change beaucoup de choses. Donc moi je pense surtout à eux et je rêve que le président de la Ligue nous donne enfin la bonne décision en fait.
Qui serait quoi ?
De savoir ce qu'il y en est en fait, parce que pour l'instant on ne sait pas. Juste et la Ligue ne communique pas, ne sait pas nous dire
qu'il y en la décision définitive.
La décision définitive, parce que à un moment
après ça va dépendre effectivement si Monaco se tourne vers le tribunal administratif, s'ils font appel au CNOSF pour aussi les aider dans ce
pour l'instant la décision n'a pas été signifiée à Monaco, donc je pense qu'elle sera signifiée en début de semaine. Ensuite ils auront 15 jours pour aller se demander au CNOSF la possibilité
de trouver éventuellement un nouvel actionnaire.
En tous les cas, ça paraît très compliqué et c'est pas très très bon pour l'image du basket français qui n'avait pas besoin de ça.
Oui, en ce moment, on en a parlé hier, effectivement, c'est un petit peu difficile. Remco Evenepoel qui remporte la Classica San Sebastian pour la 4e fois de sa carrière. On s'en fout ou on s'en fout pas ? Pascal ?
Non, je m'en fous pas, on l'avait prévu hier.
Fred.
C'est ma nouvelle idole, Remco.
C'est vrai? Super. Jérôme.
Ah, on s'en fout pas, évidemment.
Bien évidemment. Principale course après le Tour de France avant la Vuelta. La Classica San Sebastian est décidément la course de Remco Evenepoel. Malgré d'ailleurs un changement de vélo à 50 km de l'arrivée qui l'a mis en difficulté, le Belge a fini par revenir et s'imposer au sprint devant un autre homme fort du dernier Tour de France. C'est Richard Carapaz. Il a confirmé finalement sa très bonne forme, Remco Evenepoel, Jérôme.
Bon, il est sur une autre planète en ce moment, puisque comme tu l'as dit, il a fait un final incroyable avec Carapaz, mais avant à l'approche de l'avant-dernière difficulté, il est 40 secondes derrière le peloton, c'est-à-dire qu'il a doublé les 180 coureurs du peloton ou 160 qui restaient à ce moment-là, puis il a rattrapé le groupe des favoris où se situait déjà Carapaz. Il a fait rouler Maxime Van Gils, le seul et dernier équipier qui lui restait, pour ensuite, sans vraiment attaquer au train à son habitude, lâcher tous les autres. Seul Carapaz a résisté, puis dans un sprint avec une maîtrise, un calme et une maturité, il est allé taper Carapaz qui a joué le jeu jusqu'au bout. Mais chapeau, enfin Remco Evenepoel, s'il n'y avait pas Tadej Pogacar dans ce monde, il aurait déjà gagné 3-4 grands tours des Tours de France. C'est un énorme champion. Malheureusement, il est dans la même période que l'autre, mais quel respect qu'on doit avoir pour ce coureur.
Jérôme, moi j'ai une question, j'espère ne pas te piéger, mais c'est quoi son programme ? Parce que juste après le Tour de France, il continue à courir, alors que tout le monde me dit que les coureurs après le Tour de France, ils finissent rincés. Et c'est quand le repos en fait
Il va couper peut-être un peu là, mais il a voulu profiter de la forme du Tour pour aller remporter une 4e fois la Classica, pour passer devant Mariano Lerarreta, qui était le détenteur de ce record. C'est sa course, c'est la course qu'il a révélée, et elle lui convient parfaitement. Donc il a voulu faire celle-ci, et ensuite, je pense qu'il n'est pas prévu pour le moment qu'il participe à la Vuelta. Normalement, c'est Roglic dans cette équipe qui participe à la Vuelta. Pas de changement de programme prévu, à moins d'une surprise. Derrière, il va préparer les mondiaux. Il va faire le championnat du monde contre la montre, où il va gagner. Tu peux y aller, mets une pièce. Ensuite, il va faire le championnat du monde sur route. Et puis, dans la foulée, il va enchaîner, non pas avec le championnat du contre la montre européen, mais championnat sur route, du championnat d'Europe sur route qui auront lieu en Slovénie, chez Pogacar. Voilà son programme. C'est à peu près le même programme que Paul Sexas, finalement. Il va se reposer, souffler, se régénérer à partir de maintenant. Mais tu sais, quand on est un coureur comme lui, quand tu vois la 3e semaine qu'il a fait sur le tour, t'as intérêt d'enchaîner maintenant pour tout gagner. C'est là où tu rappelles
tout. Tu surfes sur ta bonne forme, effectivement.
Oui, c'est
9h57 ça. Sur RMC. Les grandes gueules du sport reviennent dans quelques instants avec le ring des GG. Léon Marchand, superstar des championnats d'Europe de natation à Paris. Est-ce toujours bénéfique d'avoir une superstar pour porter un sport ? Sans oublier la punchline des GG signée Bruno Genesio, le nouvel entraîneur de l'OM. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.